Au moment de la conquête de l'Ouest, les villes poussaient comme des champignons et la loi et l'ordre laissaient souvent à désirer. Dès qu'une bourgade avait un shérif, il était obligé de mettre des pancartes un peu partout indiquant à la populace comment elle devait se conduire sous peine de sanctions. Un Indien qui avait été invité par un pasteur se rendait en Californie en train. Il s'arrêta plusieurs heures dans la ville de Barceau. Dans la salle d'attente de la gare, il vit un écriteau qui disait « Ne pas cracher par terre ». Il examina attentivement l'état du sol et constata qu'il était absolument dégueulasse. Traduction de l'Iroquois. Évidemment, nul ne prêtait attention au panneau. Après un moment d'attente, le train repartit et il arriva à destination. Son hôte, qui l'attendait, l'emmena chez lui dans sa belle maison bourgeoise. C'était la première fois que cet Indien allait chez les Blancs et il examinait tout avec curiosité. Il remarqua que des beaux tableaux décoraient le mur du salon, mais il n'a pas vu d'écriteau disant « ne pas cracher par terre ». Il tâta le sol de sa main et constata qu'il était bien lisse et propre, personne n'avait craché par terre. Dans la ville de Barceau, le shérif essayait tant bien que mal, plutôt mal, de faire respecter la loi, tandis que dans cette maison de bonne famille, c'était inutile parce qu'il y régnait une autre loi, celle de la grâce. Je continue à lire dans le premier chapitre de la première épître de Paul à Timothée. Il faut savoir ceci. La loi n'est pas faite pour ceux qui font le bien, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, pour les gens qui méprisent Dieu et les pécheurs, pour ceux qui n'ont ni respect ni scrupule à l'égard de ce qui est sacré, ceux qui tueraient père et mère, les assassins, les débauchés, les homosexuels, les marchands d'esclaves, les menteurs, les gens sans parole et d'une manière générale, pour tous ceux qui commettent des actions contraires à l'enseignement authentique que vous avez reçu. Versets 9 et 10. Les lois qui nous gouvernent ne sont pas destinées aux gens qui agissent bien, relativement parlant. Les lois de type judiciaire, celles que l'interdiction de tuer, de voler, de faire du trafic de drogue, qui sont mentionnées, ces lois ne sont pas faites pour ceux qui, de toute façon, n'ont pas l'intention d'agir ainsi parce qu'ils obéissent déjà à leur conscience. Les lois sont pour tenir en bride les voyous. Quant aux croyants, qui marchent selon la lumière des Écritures, ils sont encore moins concernés que Monsieur Tout-le-Monde par les lois d'ordre moral qui peuvent être votées par la Chambre des députés parce que ces règles de vie personnelle sont d'un niveau bien plus élevé que ce qui pourrait leur être dicté. Ceci dit, Paul n'a pas à l'esprit les lois romaines, qui étaient d'un niveau plutôt bas dans le domaine moral, puisque l'infanticide, l'homosexualité, toutes les perversités sexuelles imaginables, le meurtre d'esclaves, pour ne citer que quelques horreurs, étaient largement répandues dans tout l'Empire. Paul parle ici de la loi de Moïse. Quand l'Éternel l'a donnée à Israël, son objectif était de lui communiquer sa volonté. Il voulait que son peuple soit différent des autres en obéissant à des règles de vie qui soient en harmonie avec sa sainteté. La loi de Moïse est un moyen de contenir la nature mauvaise de l'homme, sa tendance innée à mal faire. Elle a été donnée aux Israélites, des gens au cœur rebelle qui auraient dû se reconnaître comme tels. Par contre, la loi ne s'adresse pas à deux catégories de personnes. Elle n'est pas faite pour ceux qui n'en auraient pas besoin, ni pour ceux qui se croient déjà justes. Seulement le problème est que les premiers n'existent pas et les seconds font lourdement erreur. Personnellement, c'est vrai, je ne suis guère concerné par les lois humaines parce que mon idéal de vie se situe sur un plan plus élevé. Par contre, les lois morales de l'Ancien Testament et surtout les innombrables commandements du Nouveau me sont adressés parce que je m'écarte trop facilement de la ligne droite que Dieu a tracée. La loi de Dieu, qu'elle soit de Moïse dans l'Ancien Testament ou de Jésus et des apôtres dans le Nouveau, a pour but d'arnacher ma mauvaise nature, mais en second lieu, Dieu veut me montrer mon péché. Bien qu'à l'origine, la loi de Moïse fût donnée à Israël, elle reste toujours en vigueur. Jésus a dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Fin de citation. Tous ceux qui n'acceptent pas la grâce en Jésus-Christ que Dieu leur offre sont automatiquement sous le régime de la loi de Moïse. Soit ils la suivent à la lettre, ce qui est impossible, soit ils admettent humblement leur incapacité à lui obéir, ainsi que leur péché. Ailleurs, l'apôtre Paul écrit « Ce que l'Écriture dit dans la loi, elle l'adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi. Il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. » Le but de la loi est donc de condamner tous les hommes et de les pousser à se réfugier en Jésus-Christ. Dans une autre épître, Paul compare la loi à un précepteur qui nous conduit au Christ afin que nous trouvions en lui la justice par la foi. Cette logique est très simple. Une fois que je me rends compte que je ne peux pas obéir à la loi de Dieu, celle de Moïse, le sermon sur la montagne ou les autres commandements du Nouveau Testament, je cherche un autre moyen de satisfaire la justice de Dieu qui est par la foi en Jésus-Christ. Car il est écrit « Le juste vivra par la foi ». L'apôtre a énuméré une liste de péchés. La première moitié concerne plutôt les fautes dirigées contre Dieu lui-même. Il s'agit des hors-la-loi, des rebelles, des impies indifférents à ce qui est sacré et spirituel, de ceux qui vivent continuellement dans le péché, les amoraux, ceux pour qui la moralité n'existe pas, les indifférents à ce qui est juste et droit, et enfin, ceux qui s'attaquent à ce qui est sacré. La seconde partie de la liste concerne nos rapports avec les autres. Il est d'ailleurs possible que les péchés que Paul mentionne soient ceux dont les faux prophètes se rendaient coupables, à commencer par les meurtres. Ça ne nous concerne pas parce que nous ne tuerons pas nos parents. Mais il faut savoir que sous l'Ancien Testament, leur manquer de respect était aussi une faute qui entraînait la peine capitale. Ensuite, Paul mentionne la débauche, l'homosexualité et les trafics d'enfants qui étaient des pratiques courantes. Puis, enfin, le mensonge. Que celui qui a toujours dit la vérité et rien que la vérité lève le doigt qu'on lui remette une médaille. Personne. C'est bien ce que je pensais. Il est relativement facile de prendre toute l'humanité sans qu'il manque un seul être humain à l'appel et de les entasser dans le banc des accusés. Il suffit pour cela de mesurer chacun avec l'étalon du sermon sur la montagne. Par exemple, Jésus a dit « Celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit « imbécile » passera devant le tribunal et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. » Si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Fin de citation. Suite à sa liste et pour s'assurer qu'il n'a rien oublié, Paul ajoute « La loi est faite pour ceux qui commettent des actions contraires à l'enseignement authentique que vous avez reçu. » Le mot traduit par authentique a donné « hygiène » en français. Il s'agit de tout ce qui n'est pas sain, pur, et moral. Y a-t-il quelqu'un de non coupable dans la salle? Personne. C'est bien ce que je pensais. L'apôtre nous a tous cloués au pilori. Il est évident que la loi de Dieu, avec ses normes de sainteté, ne peut que nous condamner. Voilà une déclaration déprimante. Mais elle est heureusement suivie de la plus prodigieuse nouvelle qui ait jamais été annoncée. Celle que les anges ont proclamée aux bergers quand ils leur ont dit « Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, c'est lui le Messie, le Seigneur. » En Jésus-Christ, Dieu nous accorde le plein pardon et le statut de fils, ce qui défie l'imagination. Supposons que le juge d'une petite ville ait un fils qui soit le meilleur ami d'un jeune hors-la-loi. Une nuit, alors que ce dernier est en train de dévaliser une villa isolée, il se fait pincer par une patrouille de police. Le lendemain, il comparaît devant le juge qui est obligé de le faire incarcérer pendant 6 mois. Mais son fils décide alors d'aller en prison à sa place. Le hors-la-loi est très touché et repentant, surtout que le juge accepte en plus de le prendre chez lui où il remplace son propre fils, en quelque sorte. À partir de ce moment, le juge ne va plus traiter le hors-la-loi comme tel, mais comme son fils et lui enseigner les bonnes manières, le respect et l'amour des autres, l'apprentissage d'une profession, la participation au fonctionnement de la maisonnée et tout ce qui fait partie de l'éducation d'un enfant. Ce jeune homme est dorénavant traité d'une toute autre manière que lorsqu'il était considéré comme un vulgaire voyou. Eh bien, c'est de cette manière que Dieu agit envers ceux qui, touchés par la grâce qu'il leur offre, se repentent de leurs fautes. Ils deviennent alors ses fils et ses filles et ne sont plus sous la loi, jugés, coupables et condamnés, mais doivent se comporter comme un fils ou une fille envers son père. Je continue le texte. Cet enseignement est conforme à la bonne nouvelle qui m'a été confiée et qui révèle la gloire du Dieu bienheureux. Verset 11. La bonne nouvelle de Jésus-Christ révèle la perfection de Dieu au travers de ses attributs comme la sainteté qui se traduit par son intolérance du péché, sa justice qui exige que toute violation de sa loi soit sanctionnée et sa grâce ou miséricorde qui est à l'origine du plan du salut par lequel il pardonne les péchés et accorde la vie éternelle à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur. Ces vérités furent révélées et confiées à l'apôtre Paul qui avait la charge de les faire connaître, de les transmettre à tous les hommes. Je continue le texte. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service. Verset 12. Le mot pour service a donné diacre en français, c'est-à-dire quelqu'un qui sert. Si vous allez dans un restaurant, le serveur, le plongeur et l'hôtesse sont des diacres. À plus forte raison, tous les croyants le sont, car ils doivent servir Dieu et les autres. Ici, Paul exprime sa profonde gratitude pour la grâce que Dieu lui a faite, ce qui est encore plus évident quand on considère l'ordre des mots. En effet, Paul dit littéralement « reconnaissant, je suis ». Il rend grâce pour 3 raisons. Parce que Dieu lui a fait confiance, parce qu'il l'a choisi pour une tâche spécifique, être son apôtre, et troisièmement, parce qu'il lui a donné la force dont il avait besoin pour remplir son ministère. À y réfléchir, tous ceux qui sont engagés dans un service pour le Seigneur peuvent aussi le remercier pour ces mêmes 3 raisons. Moi, par exemple, ces émissions que je rédige et enregistre me sont tombées du ciel, et pour les réaliser, il faut que j'aie les ressources nécessaires, le matériel, le temps, toute ma tête, ou à peu près, la santé, et je suis sûr que j'en oublie. Et vous, pour quelles raisons pouvez-vous remercier le Seigneur, sachant que tout ce qu'il a fait pour vous est par grâce? Je continue le texte. « Moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté et insulté, mais il a eu pitié de moi, car j'agissais par ignorance, puisque je n'avais pas la foi. » Verset 13. En s'opposant à Jésus-Christ, Saul de Tars, car tel était son nom, avait violé la première moitié des 10 commandements. Et en s'attaquant aux croyants, il a violé la seconde moitié. C'était un sale bougre. Il avoue lui-même qu'il persécutait les membres de l'église de Jérusalem avec une furie sadique. C'est lui qui a probablement signé l'acte d'exécution d'Étienne, le premier martyr de l'église. Et sans doute d'autres encore. Bien qu'il agissait en incrédule, il était coupable, mais Dieu a eu pitié de lui parce que malgré ses actions horribles et condamnables, Saul de Tars n'était pas un pécheur endurci qui avait rejeté la révélation de Dieu. en toute connaissance de cause, comme les pharisiens qui firent crucifier Jésus. Paul était un juif zélé et scrupuleux qui essayait de gagner son salut. En invoquant son ignorance, il ne cherche pas à se disculper, mais dit simplement qu'il n'avait pas compris que Jésus-Christ était la vérité. Alors, dans sa miséricorde, Dieu s'est révélé, lui a fait courber l'échine et mordre la poussière afin qu'il se repente et soit sauvé, parce que jusque-là, il était sous la condamnation divine comme n'importe quel païen. Je continue le texte. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Verset 14. Paul ne cache rien de son passé, mais il ne le fait pas de façon morbide. Le rappel de ses crimes lui sert seulement à magnifier la grâce de Dieu. Le Nouveau Testament mentionne souvent que la grâce a pour origine Jésus et Dieu. L'apôtre Jean écrit « La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ ». Et ailleurs, Paul écrit « Les pécheurs sont déclarés justes par sa grâce ». C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Il n'est pas facile de définir la grâce de Dieu parce qu'elle englobe plusieurs éléments. On peut cependant dire que d'une part, c'est le pardon miséricordieux par lequel Dieu absout les pécheurs coupables, et d'autre part, la promesse de bénédiction éternelle. La grâce est gratuite et ne dépend pas des mérites du pécheur, de ses actions ou de ses omissions, de ce qu'il a pu accomplir ou négliger de faire. Ailleurs, Paul écrit que le rôle de la loi était de révéler au grand jour tous les péchés, mais que là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Par ailleurs, la grâce de Dieu est suffisante pour pourvoir à tous nos besoins sur terre. Dans le Nouveau Testament, la foi et l'amour sont très souvent associés, parce qu'ils font partie du même ensemble, du même emballage. Un croyant authentique est caractérisé par une foi qui persévère et par l'amour. Je continue le texte. La parole que voici est certaine. Elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux. Verset 15. L'expression « la parole que voici est certaine » ou « cette parole est certaine » est spécifique aux lettres pastorales où elle apparaît 5 fois. Quand Paul a écrit cette épître, un certain nombre d'affirmations concernant des doctrines clés de la foi chrétienne étaient admises et enseignées dans les églises, ce qui montre qu'elles avaient déjà développé une théologie systématique. Paul dit « Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs ». Cette affirmation est particulièrement importante. En grec, elle compte 8 mots qui ont été choisis avec soin. Le Christ est celui qui a été « oint » de Dieu et qui devint Jésus par l'incarnation. L'expression « il est venu » exprime la préexistence du Christ. En effet, il n'a jamais été créé et n'a pas commencé à être le jour de sa naissance. Il existait déjà dans les cieux, et de là il est descendu sur terre. Cette affirmation de l'apôtre Paul précise aussi et surtout la raison principale de la venue de Jésus ici-bas. Il est venu pour sauver des pécheurs. L'objectif du Fils de Dieu n'était pas d'être le plus grand des prédicateurs, bien qu'il l'ait été, ni de donner l'exemple d'une moralité parfaite, bien qu'il ait aussi fait cela. Jésus est venu pour sauver des pécheurs. Paul se déclare le type même du pécheur. Aujourd'hui, on lui ferait faire une psychothérapie afin de corriger la mauvaise image qu'il a de lui-même. Mais l'apôtre était un homme psychologiquement parfaitement bien équilibré et ce qu'il dit est la vérité. Personne s'était jamais attaqué au Christ comme lui. Cette vue exacte de lui-même aidait l'apôtre à demeurer humble et reconnaissant. Je continue le texte. Mais Dieu a eu pitié de moi pour cette raison. Jésus-Christ a voulu en moi l'exemple type des pécheurs, montrer toute l'étendue de sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. Verset 16. La raison pour laquelle Dieu a sauvé Saul de Tarse, l'exemple type des pécheurs, était pour, premièrement, se glorifier et, secondairement, pour le bénéfice de Paul. Dieu agit toujours pour révéler ses attributs, qui il est. Avec Saul de Tarse, il a montré qu'il était d'une patience infinie. Si Dieu a bien voulu sauver le persécuteur de l'Église qui avait offensé, persécuté et insulté le Seigneur, il peut pardonner au pire des pécheurs. Ceux qui pensent que leurs fautes sont trop graves n'ont qu'à considérer le cas de Saul de Tarse, pharisien orgueilleux et meurtrier. Par ailleurs, si quelqu'un croit avoir dépassé le point de non-retour avec Dieu, c'est qu'il ne l'a pas fait. Autrement, il ne s'en soucierait pas le moins du monde. En effet, ceux qui ont vraiment rejeté la révélation divine en toute connaissance de cause et que Dieu a définitivement abandonné, sont tout ce qu'il y a de plus serein et indifférent aux réalités spirituelles, au péché, à la justice et au jugement. Je continue. Au roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu soit honneur et gloire pour l'éternité. Amen. Il s'agit d'une doxologie de l'Église primitive. Dieu est éternel et hors du temps. Il n'a ni commencement ni fin. Il est incorruptible et invisible. On ne peut le connaître que s'il se révèle à nous. Il est le seul vrai Dieu et il n'y en a qu'un. Il est donc digne de recevoir honneur et gloire dans les siècles des siècles.